Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Every time when life has lost its meaning and all is darkness around me, I'm silent but inside I can't stop screaming.
Bonjour. Populaires, défavorisés, ils sont parfois appelés tout simplement les quartiers. Ces zones urbaines, périphériques, où les inégalités sont voyantes. Un exemple avec le Covid et cette étude de Santé publique France. Dans les quartiers nord de Marseille, il y a eu près d'un tiers de tests en moins et d'hospitalisations en plus que dans le reste de la ville. Deux fois plus de risques de développer une forme très grave de la maladie et deux fois moins de vaccins. Dans tous les pays d'Europe, ces banlieues font le plus souvent la une pour des faits de violence, plus souvent que pour les initiatives qui pourraient y améliorer la qualité de vie. Récemment, c'est Stockholm qui a fait parler d'elle. Les armes à feu circulent en nombre dans les banlieues de la capitale suédoise. 19 jeunes ont déjà été tués dans des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Début octobre, les habitants de ces quartiers ont manifesté devant le Parlement suédois, des mères de famille surtout. C'est un reportage de notre correspondant Frédéric Faux.
En Suède, les citoyens ne descendent pas souvent dans la rue pour se faire entendre. Mais pour ces habitants des banlieues de Stockholm, presque tous d'origine immigrée, la coupe est pleine. Mimi a 34 ans et vit à Fittja.
Il y a trois semaines, dans ma rue, il y a eu une fusillade. Un jeune de 21 ans a été tué. Et les enfants qui jouaient dans le parc ont vu tout ce qui s'est passé. Personne ne devrait voir des choses pareilles. Nous voulons que notre gouvernement reconnaisse qu'il s'agit d'une crise nationale. Des enfants sont tués dans nos rues. Nous avons besoin d'aide.
Depuis le début de l'année, une centaine de fusillades a été recensée dans le comté, faisant 31 blessés et 19 morts. Des parents unis au sein d'un réseau baptisé Crise Nationale ont donc élaboré un cahier de doléances comportant 34 mesures. Ils demandent que les jeunes aient accès à plus de jobs d'été, que l'encadrement dans les écoles soit renforcé, ainsi que les moyens destinés aux associations. Ils veulent que les policiers agissent aussi contre les consommateurs des quartiers riches, mais pas forcément qu'ils débarquent en masse dans les banlieues. Médusa est une des porte-parole de ce mouvement.
On a plus de policiers, mais ça ne change rien. C'est un problème qui remonte à très loin. Tout commence avec les enfants. Quand on voit qu'un jeune est à risque, pourquoi on ne prend pas plus de mesures? Je suis juste une habitante de ces banlieues qui est fatiguée de toutes ces tueries, de toute cette souffrance.
2500 jeunes seraient actifs dans les gangs pour la seule capitale suédoise. La police a essayé différentes méthodes pour lutter contre le phénomène, certaines importées des États-Unis, pour l'instant sans succès. Pour Mohamed Nur, député suppléant à Tensta, d'origine somalienne, cette mobilisation des parents est un jour qui fera date.
Ils se sont rassemblés pour faire face au pouvoir, face au Parlement, pour dire « ça suffit, ça n'était jamais arrivé avant ».
Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les culpabiliser et les rendre complices de ce qui arrive à leurs enfants.
Les parents sont responsables chez eux, mais quand leurs enfants vont dans une école qui n'a pas assez de professeurs, qui n'a pas de moyens, où ils ne peuvent pas bien apprendre, qui s'en occupe? Vous voulez qu'ils règlent les problèmes de l'école eux-mêmes? Non, car ils paient déjà des impôts pour ça. Quand vous avez six frères et sœurs et que la famille n'a que trois pièces, qu'on ne peut pas faire ses devoirs de maths, qu'on n'a pas d'espace, que se passe-t-il quand un ado de 15 ans n'a pas d'espace? Il va dehors. Et quand il sort, oui, les gangs sont là. Les jeunes qui sont dans les gangs ne sont même pas impressionnés par la police. Alors comment pourrait-on mettre ce fardeau sur le dos des parents en disant que c'est à eux de s'occuper de ça?
La liste des 34 mesures élaborées par les manifestants a été remise au ministre de l'Intérieur, Mikael Damberg, qui à la fin août avait lui aussi présenté un plan en 34 points pour lutter contre la violence des gangs, avec des mesures essentiellement répressives.
Molenbeek, le nom vous dit peut-être quelque chose. Cette commune défavorisée de la périphérie de Bruxelles a servi de base arrière aux terroristes après les attentats de Bruxelles et Paris. C'est là qu'a grandi et a été arrêté Salah Abdeslam, l'un des acteurs des attentats du 13 novembre. La commune essaie depuis de se débarrasser de cette image, mais la situation de la population sur place n'a pas beaucoup changé, comme nous l'explique notre correspondante à Bruxelles, Lakshmi Lotta.
Molenbeek ne va pas très bien, nous dit d'emblée la nouvelle bourgmestre Catherine Moureau. Le taux de chômage des jeunes frise les 30%, la précarité, le manque de moyens sont toujours là. La commune est en grande difficulté financière et toujours aussi densément peuplée, ajoute l'élu. Qu'en est-il alors du fameux plan canal qui avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur de l'époque en 2016 ? Un plan d'1 million d'euros pour lutter contre la radicalisation. Je ne suis pas sûre que la somme ait un jour atteint ce montant, affirme la bourgmestre. Et dire que l'on vit à Molenbeek, c'est un handicap sur le CV, assure des jeunes diplômés qui tentent de se faire une première place sur le marché du travail. La bourgmestre tient tout de même à nous parler des étoiles de Molenbeek, un projet qui existe depuis 2 ans maintenant. Il met en valeur des personnalités molenbeekoises bien intégrées dans la société belge, des profils qui ont réussi. Exemple, la danseuse Jenny Bonsenge, qui a marqué les esprits en étant invitée dans le célèbre talk show américain d'Hélène DeGeneres. Mourad Douar, inspecteur à la police fédérale et scénariste. Il y a aussi une styliste, un DJ, des sportifs. Mais ces étoiles semblent parfois bien inaccessibles aux jeunes ou aux femmes les plus touchées par le chômage.
Mieux vivre en banlieue, des solutions existent, on va en parler. Quand il s'agit de circuler d'une périphérie à l'autre sans voiture, souvent les moyens sont réduits. C'est le cas en région parisienne et passer le permis de conduire y coûte environ 1500 euros, ce qui n'est pas accessible à tous les foyers. Or le permis est aussi très utile pour trouver du travail. En Seine-Saint-Denis, une association aide les habitants et surtout les habitantes à se mettre au volant. C'est un reportage d'Alice Roujat.
Je suis très têtue. Si je veux quelque chose, je l'obtiens.
À 63 ans, Rafika a décidé de passer son permis de conduire. Jusque-là, elle faisait tout à pied ou en transport. Et pour les courses, c'était son mari qui la conduisait. Maintenant, cette époque est révolue.
Je peux compter sur moi-même. Mes enfants ont tous, ils ont leur permis et tout ça. Chacun, il va se mettre en son ménage. Déjà, il y a 2 qui sont, le troisième ne va pas tarder. Alors, pour mes courses, pour mes petits-enfants, c'est pour ça que ça m'a encouragée. Et même mes enfants, ils m'ont trop encouragée. C'est eux qui m'ont inscrite. Ils m'ont poussé à passer mon permis.
Avec son moniteur Steven Jean-Louis, elle démarre sa 2e heure dispensée par l'auto-école associative Agir Ensemble.
À l'aise.
À l'aise.
Avec ce que je dis aux garçons, franchement, je ne suis pas stressée du tout. Franchement, vous étiez formidable. Rien à dire.
C'est un peu plus de social, je dirais, dans une auto-école associative. On est un peu plus psychologue, plus proche, un petit peu plus amis, entre guillemets, avec les élèves.
Et est-ce que dans les auto-écoles plus classiques, on fait passer son permis à des mamans de 63 ans aussi?
Oui, mais c'est moins fréquent. C'est beaucoup moins fréquent. Après, c'est un challenge pour les moniteurs et voir les parents réussir. Donc, pour moi, c'est une fierté. Et aussi, pour eux aussi, c'est une fierté, surtout dans leur quotidien. Ça leur change. Du coup, ils peuvent se déplacer en véhicule. C'est un avantage pour tout le monde, entre guillemets. On va prendre à droite. Voilà, clignotant à droite. On va faire attention aux piétons.
Comme Rafika, plus de 800 mères de famille ont pu passer leur permis depuis 2020. À la tête de l'association, Idriss Nyang, il souhaite rendre accessible la formation aux plus démunis.
Dans ces publics en difficulté, le premier qu'on a identifié, c'est les mères de famille monoparentales. Donc c'est des mères de famille qui se retrouvent à la charge de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. C'est des mères, parfois, quand ce ne sont pas des mères de famille monoparentales, qui dépendent d'un mari ou d'un enfant qui a, par exemple, une 20aine d'années. Et malheureusement, que ce soit l'enfant ou le mari, il ne peut pas être présent de manière permanente. Et donc, l'idée pour ces mères de famille, c'est qu'elles soient avant tout indépendantes.
En plus des mères de famille, l'association offre ses services aux personnes qui vivent des minimums sociaux ou à des repris de justice. Le permis, c'est un prérequis quand on vit et travaille en banlieue.
On est en Seine-Saint-Denis. Donc on a les zones aéroportuaires, on va être sur des 3-8, on va être sur des horaires décalés. Lors de l'entretien, on ne pose même pas la question du diplôme. Donc, si on n'a pas le permis et cette mobilité, bah forcément, l'entretien ne sera pas positif.
La plupart du temps, le financement est assuré par les dispositifs de formation continue. Dans le système français, chaque heure travaillée assure des droits, mais à Drancy, beaucoup de gens l'ignorent. Le but de l'association est aussi de les aider à débloquer ces sommes, un premier pas vers des formations futures.
Se vuoi convincere tua figlia che sei innocente di quel che dice la gente in ogni angolo di strada, devi usare tutta l'arte di un padre affezionato.
En Italie, de la petite délinquance à la criminalité organisée, le chemin passe souvent par des quartiers laissés à l'abandon. Et il y a une expression que l'on retrouve régulièrement dans la presse italienne au gré des arrestations de chefs de clan et de boss mafieux, c'est « uomo d'onore », « homme d'honneur » en français. Pourtant, ce qui distingue l'uomo d'onore, c'est rarement sa vertu, mais plutôt son talent pour le crime et en particulier dans la mafia. C'est notre chronique en un mot et elle est signée cette semaine par Cécile Debarge.
Si l'on s'en tient au sens littéral de l'expression italienne « uomo d'onore », le sens est proche de celui du français. Des tailles Serena, 31 ans et originaire des Marches.
Un homme d'honneur, c'est celui qui jouit d'une bonne réputation, qui est respecté parce qu'il se comporte avec honnêteté et sens du jugement.
Un homme bien sous tout rapport, en somme, mais dont la principale caractéristique est d'avoir un code moral, un code de conduite, explique la palermitaine Christina, 34 ans.
En général, lorsqu'on parle d'homme d'honneur, on parle d'un homme qui suit un ensemble de règles, faites de respect, et surtout d'un homme qui n'a qu'une parole, qui fait toujours ce qu'il dit. Ensuite, c'est bien sûr lié à un règlement, à un code d'honneur, mais là, c'est un sens très spécifique et ça nous emmène dans un autre monde.
Cet autre monde que mentionne Christina, c'est celui du crime organisé, en particulier de la mafia sicilienne, où l'expression « uomo d'onore » s'est forgé une place de choix jusqu'aux plus hautes sphères, à tel point qu'en Sicile, dire de quelqu'un qu'il s'agit d'un uomo d'onore, c'est parler du mafieux plutôt que du juge, détaille Serena.
On tiendra pour un homme d'honneur celui qui ne trahit pas, un homme fidèle qui respecte ses engagements et n'a peur de rien ni de personne, n'a pas droit d'être lâche et surtout qui, s'il est blessé ou arrêté, ne donnera jamais ni ses complices ni ses agresseurs.
Un homme d'honneur serait-il alors tout simplement un mafieux ? Eh bien non, ce serait bien trop simple. Attention surtout à ne pas mélanger les torchons et les serviettes, pourrait répondre le repenti le plus célèbre d'Italie, Tommaso Buscetta. Surnommé le boss des deux mondes, il a régné en maître sur le crime organisé en Sicile mais aussi aux États-Unis. En 1984, après son arrestation au Brésil d'où il contrôle le trafic de cocaïne vers une partie de l'Europe, il décide de collaborer avec la justice italienne et livre tous les secrets du fonctionnement de Cosa Nostra devant la présidente du tribunal de Palerme, parlant notamment d'un de ses collègues du crime comme d'un véritable homme d'honneur.
Pour moi, il était l'exemple parfait de ce qu'on appelle les hommes d'honneur. Une personne sage, une bonne personne. Pas comme ceux d'aujourd'hui, pas porté sur la violence. Il ne connaissait pas la violence et il savait pourquoi chaque chose de la vie se produisait.
À travers les mots de Tommaso Buscetta, il y a donc les hommes d'honneur, ceux dont il estime faire partie, et puis les autres, ces mafieux de bas étage qui sont ses contemporains. Une référence aux mafieux rivaux qui ont provoqué une guerre des clans et mis Palerme à feu et à sang dans les années 80.
Pour que vous puissiez comprendre, Madame la Présidente, la différence de mentalité entre la mafia des origines et la mafia actuelle. Même si à l'époque, il y avait déjà une certaine violence, nous avons crié au scandale quand une bombe a été placée dans la voiture des gendarmes à Villa Giulia, il me semble. Et nous avons tout de suite dit que nous n'aurions jamais fait ça, que ça ne pouvait être que ce fou de la Barbera qui voulait détruire tous les équilibres existants.
Parmi ses adorateurs, beaucoup estiment aujourd'hui que Buscetta, surnommé le traître par tous ceux dont il a donné les noms à la justice, était en réalité le dernier homme d'honneur de Cosa Nostra. Comme s'il y avait eu une bonne et une mauvaise mafia, celle des mafieux qui respectent leur adversaire, leur famille, leur femme et puis les autres assoiffés de sang et d'argent. Une distinction qui laisse en général pantoise les milliers de victimes et familles de victimes de la mafia en Italie.
Les touristes font-ils souffrir les baleines ? Curieuse question que se sont posées des chercheurs en Islande. Les excursions en mer pour apercevoir des cétacés font partie des incontournables lorsqu'on a la chance de visiter l'île Nord-Atlantique. En 2019, avec la pandémie, 364 000 personnes avaient tenté l'aventure. Ces chercheurs tentent donc de déterminer l'impact des navires de tourisme en analysant des hormones contenues dans les gouttelettes d'eau expulsées par l'animal et qu'on appelle le souffle des baleines. Embarquement à bord d'un petit voilier dans le nord du pays avec notre correspondant Jérémy Richard.
Un drone auquel sont fixées deux boîtes de pétri, un petit contenant rond en plastique. Et c'est tout. Après d'interminables heures de navigation sans succès, la nageoire dorsale d'une baleine à bosse est enfin repérée. Les voilà prêts au décollage.
Ok, on peut y aller. Prête pour la mise en route des hélices. Lâche.
L'équipe de chercheurs fait planer l'appareil télécommandé au-dessus du cétacé avec prudence avant de le diriger à travers le souffle fraîchement expulsé de son évent pour en prélever les gouttelettes d'eau. Tom Grove, cofondateur de Whalewise, un organisme pour la conservation marine, est en charge de cette étude singulière.
À partir de l'échantillon, on peut ensuite examiner des hormones telles que le cortisol, qui est une hormone liée au stress. Puis l'on peut déterminer les niveaux de stress physiologique de ces baleines. Nous essayons aussi de collecter des échantillons dans différentes régions d'Islande à différents moments de la journée pour comprendre comment leurs niveaux de stress peuvent être liés au trafic maritime.
Le pilote du drone scrute son écran et veille un survol rapide car l'appareil télécommandé, bien que moins intrusif qu'un navire de recherche, peut toujours engendrer des troubles pour l'animal. Idéalement, l'échantillonnage se déroule en plusieurs étapes, précise Tom Grove, également doctorant à l'Université d'Édimbourg.
Notre objectif est de collecter un échantillon avant que les bateaux d'observation des baleines n'arrivent et attendre qu'ils viennent interagir avec les baleines pendant quelques heures. Et puis, si nous sommes chanceux, nous reprenons un autre échantillon après. De cette façon, on peut examiner l'impact direct de cette rencontre sur les niveaux de stress. Mais c'est très rare et très difficile à obtenir, car il faut des conditions optimales pendant plusieurs heures.
Une fois l'échantillon prélevé avec succès, le drone est ramené à bord. Chaque prélèvement est ensuite fermé hermétiquement à l'aide d'un film de paraffine, puis congelé avant analyse dans un laboratoire. La méthode utilisée par l'organisme britannique pour la conservation marine a déjà été employée succinctement ailleurs par des biologistes, mais c'est une première pour des chercheurs en Islande, et Tom Grove insiste sur son caractère exploratoire.
C'est une méthode super inédite, très nouvelle. Presque personne n'a collecté d'échantillons de souffle. Et en termes d'examen des niveaux d'hormones dans ces échantillons de souffle, c'est très novateur. Nous ne nous attendons pas vraiment à ce que les niveaux de cortisol soient plus élevés quand il y a des excursions autour des baleines que quand il n'y en a pas. Mais nous ne pouvons pas vraiment en être certains.
Jusqu'à présent, les recherches d'impact de l'industrie d'observation des baleines sur les mammifères se basaient sur des observations comportementales. Marianne Rasmussen, directrice du Centre de recherche de l'Université d'Islande à Húsavík, est l'une des auteurs d'une vaste étude dans le sud-ouest du pays, près de la capitale islandaise Reykjavik, en 2011.
Nous avons constaté que les petits rorquals étaient dérangés pendant qu'ils se nourrissaient, mais que ce n'était qu'une perturbation à court terme. Nous avons beaucoup de photos d'identité et quand nous les avons examinées, nous avons vu que de nouveaux petits rorquals continuaient d'arriver dans la baie pour s'alimenter. Chaque petit rorqual était donc très peu dérangé et ça n'affectait pas sa forme physique globale.
Depuis 2018, Whalewise a collecté 59 souffles de baleines et estime devoir en atteindre une centaine pour rendre l'analyse probante. Cet été, l'association environnementale française Unimondo Expédition, basée à La Rochelle, a participé à une partie des prélèvements pour conclure une mission d'un mois en Islande sur les thématiques liées au changement climatique. Et la cofondatrice Sophie Simonin rappelle que ces mammifères sont des alliés précieux pour le climat.
Les baleines, elles sont quand même importantes pour nous, pour vivre, parce qu'elles participent au final à un écosystème sur notre planète. Elles absorbent du coup toute la quantité de plancton. Elles absorbent aussi énormément de CO2, puisque le phytoplancton absorbe lui-même le CO2. Donc elles ont un rôle hyper important.
Une étude du Fonds monétaire international, publiée fin 2019, indiquait que chaque grande baleine séquestre en moyenne 33 tonnes de dioxyde de carbone.
Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez l'émission et toute l'actualité européenne sur le site de la Radio du Monde, rfi.fr. À bientôt.